Quel est notre réflexe quand il s'agit de raisonnement? Quel est notre réflexe quand nous faisons face, par exemple, à un problème, à une épreuve, à un moment difficile dans la vie, ou même, justement, une crise comme la pandémie de la COVID? Je pense que maintenant, nous sommes à fin 2021. La pandémie a commencé en mars 2020, à peu près. J'ai même du mal à penser que ça a duré autant, aussi longtemps. Mais nous avons maintenant un peu, si vous voulez, de recul. Nous avons la possibilité de réfléchir et de faire une auto-analyse un peu plus poussée maintenant de quelle était notre réaction à toute cette crise. Je sais que ça continue, comme nous venons de mentionner, madame. Et bon, on a eu quelques membres qui ont été impactés, c'est sûr. Mais et ce n'est pas fini. Mais ça a commencé à peu près 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, 2 ans, 20 mois à peu près. Est-ce que nous avons réagi à cette crise avec une réflexion humaine? Est-ce que nous avons réagi à plusieurs étapes de cette crise avec des raisonnements qui sont plus dans les thèmes, dans le correspondent, je dirais, à ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont autour de nous, le raisonnement humain. Nous sommes encore humains, n'est-ce pas? Il faut l'admettre. Nous ne sommes pas parfaits. Nous attendons Christ et le retour de Christ pour arriver à ce stade d'être parfait, n'est-ce pas? Pour être perfectionné, pour enlever la partie charnelle et remettre la partie spirituelle définitivement. Ça ne sera pas un avant-goût, ça ne sera pas un dépôt, ça sera pleinement l'héritage. Donc c'est quand même quelque chose qui nous inspire. Mais dès maintenant, nous sommes encore présentement dans ce corps physique, nous sommes dans la société physique, même la société charnelle, je peux même le dire, et nous vivons dans cette mentalité de raisonnement humain. Même le mouvement humaniste va dire que l'homme va réussir tout seul. Il va réussir sans religion, il n'a pas besoin d'un Dieu, mais les humains sont ceux qui sont le top. Et c'est tout. On va peut-être respecter l'humain le plus intelligent du monde, on va respecter l'homme le plus puissant du monde, mais on ne va pas reconnaître Dieu et son autorité. Donc, c'est ça la logique que nous vivons avec dans ce monde autour de nous. C'est une logique qui fait que l'homme ne dépend pas de Dieu. L'homme ne raisonne pas comme l'Éternel. L'homme n'a même pas un intérêt aujourd'hui d'essayer d'imiter le raisonnement de Dieu. Donc, nous avons un raisonnement humain qui est le raisonnement, je dirais, du jour. Et aujourd'hui, la poursuite de la recherche sur l'esprit humain, c'est le sujet de nombreux articles d'études et de livres de par le monde. On est fasciné par l'esprit humain. On s'intéresse à comment ça fonctionne le cerveau, au fonctionnement de notre pensée. Il reste encore plusieurs mystères, c'est certainement le cas. Mais parmi les branches de la psychologie, nous avons aujourd'hui la psychologie développementale, la psychologie génétique, la psychologie dynamique, la psychologie pathologique et la psychologie sociale et bien d'autres. Néanmoins, tous ces efforts à comprendre l'esprit humain n'ont qu'effleuré le sujet parce qu'il reste de grands mystères à comment nous fonctionner à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est dommage que plus de personnes ne reconnaissent pas le fait que ces choses restent un mystère et les choses qui sont en nous nous dépassent parce que Dieu les a fait. Dieu est notre créateur. Nous ne sommes pas le produit d'un hasard. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution, d'un petit bactère qui a été créé à cause d'une tempête avec des éclairs. Et donc nous savons dans l'Église que nous dépendons de Dieu, que nous sommes créés par Dieu, et il a aussi envie de nous faire penser comme lui. C'est en révélant lui-même et sa loi qui nous permet de comprendre comment il voudrait que nous fonctionnions aussi. Il nous révèle comment il est, et il nous révèle son amour pour nous, sa pensée pour nous, et en plus, il nous révèle comment on est censé de se comporter. Et ces choses vont ensemble, parce que nous sommes aussi en train d'aimer notre éternel, notre Dieu, et nous sommes en train de vouloir l'imiter. C'est un vouloir que nous avons en nous. Et donc, si on passe à la psychologie, pour cette petite parenthèse, on arrive à estimer la complexité de cette question. Parce que, si vous voulez, si l'homme pense que c'est juste l'esprit humain qui fait fonctionner le monde, qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas vraiment quelque chose de spirituel derrière les humains, l'homme va chercher à comprendre de mieux en mieux qu'est-ce qui se passe. Mais il ne va jamais reconnaître que quelque chose à l'intérieur de nous dépasse. Donc, ce qu'ils aiment dire, c'est qu'ils aiment décrire le fonctionnement. Ils aiment décrire ce qu'ils voient, ce qu'ils observent. Et donc, l'homme a déjà observé pas mal de choses avec cette recherche, cette poursuite du savoir. Considérons l'organe du cerveau, l'organe qui gère les systèmes du corps, qui soutient la vie, les battements du cœur, la respiration, etc. Le cerveau est le siège de la personnalité et la mémoire. Le cerveau est composé de plus de 100 milliards de cellules, y compris les neurones, les cellules très spécialisées du système nerveux central, le système qui est responsable pour la transmission des impulses électriques de partout dans le corps. Et donc, d'autres caractéristiques de votre cerveau, par exemple, le cerveau produit une puissance électrique, saviez-vous, d'à peu près 20 watts. C'est l'équivalent de la consommation d'une petite ampoule électrique. Donc, l'idée d'être lumière, c'est intéressant parce que il y a quand même la puissance électrique à l'intérieur de nous pour pousser une lumière, si on l'utilise bien, je pense. Mais cette puissance, bien sûr, ça diminue quand on dort. Quand il y a de l'activité, ici, ça génère plus de puissance. On estime qu'à l'âge de 20 ans, un homme a environ 176 000 kilomètres d'axones dans son cerveau. Kilomètres, ils sont toutes petites, n'est-ce pas? Ce sont des toutes petites cellules. Donc, c'est vraiment long. Ça, c'est une distance de plus de 4 fois la circonférence de la Terre dans notre cerveau. Donc voilà, si l'esprit humain est aussi complexe que le cerveau physique, l'organe, ou voire plus, on commence à voir le grand défi de la psychologie. Parce que c'est quand même, comme je vous ai mentionné, c'est comme un mystère. Donc, en tant que membre de l'Église de Dieu, que pouvons-nous faire afin de profiter de ces connaissances, de cette psychologie, peut-être les études du comportement de l'homme? Est-ce qu'il y a quelque chose de valeur dans ces études? Je pense que de temps en temps, nous avons la possibilité d'apprendre par le comportement des autres. Et ça, c'est aussi un secteur, un domaine d'études dans la psychologie. Donc, la lumière de la Bible, à la lumière de la Bible, je crois que certaines connaissances de cette psychologie, en particulier au sujet du raisonnement, justement, de l'esprit humain, peuvent nous informer sur certaines faiblesses de l'homme qui soulignent notre besoin de l'Esprit de Dieu. En sachant que nous sommes faibles à raisonner et que Dieu est fort, quand on reconnaît ceci, on peut comprendre l'importance de s'appuyer, non pas sur notre raisonnement humain, mais sur l'Esprit de Dieu en nous. C'est quand même un don, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous donne, qui nous offre. C'est quelque chose qui est très puissant et c'est un dépôt pour l'avenir. Ça ne nous fait pas complètement parfait aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est un dépôt pour l'avenir par lequel Dieu nous reconnaît, par lequel Dieu travaille avec nous et en nous pour produire son caractère, son raisonnement, on peut dire, en nous. Donc, considérons Romains chapitre 8 maintenant, s'il vous plaît. Romains chapitre 8 est intéressant. Il y a des fois, dans les écrits de Paul, de l'apôtre Paul, certaines dualités, on va dire, certaines choses qui sont mises en opposition les uns les autres pour que nous comprenions mieux les deux choses ou une idée ou une conception de quelque chose. Donc, c'est pour ça que souvent, dans sa façon de raisonner, Paul, bien sûr, utilisait ce qu'on appelle les herméneutiques des rabbins et des juifs de son époque. Peut-être il n'y avait pas trop de rabbins à son époque, mais il y avait des érudits quand même. Mais Paul se sert souvent dans ses écrits de ces dualités, de ces oppositions. Si vous étudiez la linguistique et des choses comme ça du XXe siècle, il y a eu beaucoup de progrès dans ces poursuites de comprendre le signe et le symbole et notre façon de comprendre les textes et les symboles. Et une chose qui est claire, qui est sortie de tout ça, c'est que nous avons besoin de comparer pour mieux comprendre souvent. Donc Paul s'en sert dans Romains chapitre 8 et commençant au verset 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Alors, vous avez, si vous voulez, l'un côté, n'est-ce pas? Continuons. « Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit l'affectionnent aux choses de l'esprit. » Voilà, les deux pôles de notre argument s'apparaissent maintenant déjà. Esprit et chair. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Le verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » OK, donc si on comprend l'esprit et la chair, on va comprendre aussi que la chair, c'est le côté la mort, et que l'esprit, c'est du côté de la vie. Donc on voit encore un double dans son argument. Ceci nous aide encore une fois à comprendre que les deux sont différents et qu'il faut reconnaître qu'il y a une différence, que nous ne pouvons pas nous contenter de simplement dire « je vais raisonner par la chair, par le raisonnement humain. Je vais me contenter d'être ignorant de ces choses et de ne pas être conscient dans mon raisonnement, dans ma vie, de ce qui s'y passe à l'intérieur de moi, qui est la puissance de l'Esprit. Quand je suis baptisé, quand je fais partie de l'Église de Dieu, c'est aussi pour nous aider à vaincre par l'Esprit. Par l'Esprit. Dieu ne nous a pas demandé de vaincre par notre connaissance en nous, par notre raisonnement humain, par les sages de ce monde. Il n'a pas appelé les sages, n'est-ce pas? Il a appelé les simples, les humbles. OK? Et nous en faisons partie. Et donc, nous comprenons la différence est importante maintenant. Donc, encore une comparaison. Ça continue son illustration, verset 7, car l'affection de la chair est l'intimité contre Dieu. Donc on a maintenant trois choses du côté de la chair. La chair, la mort, l'inimité contre Dieu. Et puis on va ajouter quelque chose de l'autre côté, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. OK? Donc, on a quelque chose ici. C'est que si on vit par la chair, on n'est pas soumis à la loi de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu compte pour Paul dans ce verset, dans son argument? Est-ce que la loi de Dieu est abolie dans les arguments de Paul? Non, du tout. Si vous voyez comment, même dans un chapitre souvent cité par ceux qui vont dire « on vit par la grâce seulement », le Romains 8 est toujours cité par plusieurs personnes, mais même dans ce chapitre, nous avons l'évidence même ici pour prouver que Paul, certainement, il s'appuie sur la loi de Dieu. Pas pour le salut, parce que la loi n'a pas le pouvoir de nous sauver. C'est par la grâce, par l'Esprit de Dieu que nous sommes sauvés, par l'Esprit en nous, ok? Mais la loi n'est pas non plus abolie, ok? Donc, l'idée d'être soumis à la loi de Dieu, ça change notre raisonnement. Si on recule un petit peu dans son argument, ça change notre façon de voir les choses, de raisonner et de vivre. Et puis au verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et puis donc, on est fini avec ce côté de la chair, on va passer au verset 9, côté de l'esprit. « Pour vous, frères et sœurs, pour vous, Paul écrit à nous, Paul écrit aux disciples de Jésus-Christ, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Il le savait déjà. Parce que vous êtes assis ici, vous êtes là, vous lisez ces propos. Vous savez, il savait que ces personnes avaient déjà accepté l'instruction de Dieu. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu est en vous ou habite en vous, est présent ou demeure en vous, on peut dire. D'accord ? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, Paul n'a pas cessé de bâtir cet argument. C'est incroyable comment il commence vraiment avec quelque chose de facile, fondamental, et petit à petit, si on suit l'idée, si on suit l'argument, le développement de ces arguments, on arrive à bien comprendre plusieurs aspects. Ils les mettent en opposition, les uns et les autres. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons reconnaître la différence entre vivre selon la chair, vivre selon l'esprit et la loi de Dieu. Vous savez que ici, comme je viens de vous expliquer, la loi de Dieu tombe du bon côté. La loi de Dieu tombe du côté de la vie, du côté de l'esprit. La loi de Dieu ne tombe pas du côté de la chair, du côté de la mort. Il faut toujours qu'on se souvienne de ça, parce qu'on va nous dire que la loi ne compte pour rien, que la loi a été abolie par Jésus-Christ, que Jésus a complété la loi et nous n'avons plus besoin de s'associer avec. Ce n'est pas vrai, et c'est clair par des passages comme ici, que nous dépendons aussi de la loi de Dieu. Ça veut dire que nous sommes instruits par Dieu, nous soumettons à sa volonté par la connaissance et la reconnaissance de sa loi. On peut être conscient de quelque chose sans se soumettre de quelque chose, n'est-ce pas? On peut comprendre comme mes enfants de temps en temps. Ils savent des fois que la mère, c'est l'autorité aussi, et le père, c'est l'autorité dans la famille, mais des fois, ils ignorent ça. Des fois, ils ignorent ça. Quand on essaie de leur dire de faire quelque chose, des fois, ils disent « Oh, j'ai pas entendu, j'ai oublié. » Mais nous sommes conscients. On est avertis et on se réjouit dans cette réalité. Paul a même comparé notre vie à un esclavage à Christ. On est des esclaves pour Christ. C'est la soumission totale. Il a dit dans Romains 12 que c'est un sacrifice vivant qu'il voudrait de nous. Ça veut dire qu'on donne tout. Et c'est ça qui est acceptable. Donc, si nous sommes libérés par cette connaissance, libérés de la voie qui mène à la mort, pour vivre par Dieu, avec Dieu, en nous, par la puissance de son esprit, alors nous sommes en train de nous réjouir. Donc c'est puissant, mais est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que c'est notre réflexe de s'appuyer sur notre instruction et l'inspiration que Dieu nous donne par son esprit en nous? Paul a dépeint un contraste fondamental afin de nous exhorter à considérer jusqu'à quel point poussent nos pensées. Et puis, par conséquent, l'application de ces pensées sur nos actions, sur notre comportement. Il y a quand même des conséquences avec nos actions, n'est-ce pas? Les conséquences sont toujours ce que nous devons, de temps en temps, nous voudrions éviter. Et encore une fois, je me réfère à ma famille, des fois, les enfants. Des fois, ils vont faire des bêtises en pensant qu'ils vont quand même éviter les conséquences de ces bêtises. Mais il faut qu'on apprenne, en tant que jeune enfant, que nos actions, ils ont des conséquences. Malheureusement, l'homme, même des adultes, continue pendant toute la vie à essayer d'éviter les conséquences. Les conséquences du péché, les conséquences de son propre raisonnement, les conséquences de toutes sortes de choses. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Mais nous, nous sommes avertis qu'il y a des conséquences à la vie du péché. Alors pourquoi, des fois, nous permettons-nous de continuer dans le péché? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça s'explique, le péché, quand nous sommes déjà conscients de toutes ces choses? Est-ce que ça s'explique? La seule explication que j'ai, parce que nous péchons de temps en temps quand même, la seule expression que j'ai, c'est que je suis encore humain. Et même si je transgresse, je suis capable de me repentir. Je suis content, je suis heureux que Dieu me permet de me repentir. Et nous pouvons nous repentir. Nous ne sommes pas tués, zap, instantanément. Ça serait dommage. Mais l'apprentissage ne serait pas vraiment développé s'il nous faisait mourir tout de suite. La mort, ça vient. Mais ce qui est important, c'est la vie éternelle. La vie éternelle avec Dieu. C'est ça qui compte pour le plus. Ce n'est pas la vie physique qui compte pour le plus. Mais dans cette vie physique, nous sommes censés de changer notre raisonnement. De changer notre raisonnement, de changer, d'éviter, quand Dieu nous appelle, quand le Père nous attire, nous sommes censés de changer. Pas de le suivre en disant je vais garder un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Un pied dans le monde, un pied dans la vérité. Ce n'est pas comme ça qu'il voudrait notre obéissance. Donc les membres de l'Église de Dieu ont reçu ce que Paul a dit, qui est l'Esprit de Dieu, ce pouvoir, cette présence de Dieu en nous. Et donc, comment éviter, alors, l'affection de la chair? D'après l'apôtre Paul, nous avons ici une question de la vie et la mort. Il faut éviter ces choses, il faut éviter ces choses. Mais il est intéressant, de nouveau, à considérer que Paul ne dit pas que c'est impossible de pécher pour les membres de l'Église. Et alors, c'est une doctrine du monde aussi. On dit des fois que c'est impossible de pécher une fois qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais Paul nous avertit ici de ne pas avoir l'affection de la chair. Parce que c'est ça l'inimitié entre Dieu. C'est une idée où on ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et c'est ça qui mène à la mort. Ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas le fait que les hommes ne sont pas avertis, qu'ils pêchent, qu'ils vont transgresser. Les gens qui sont déjà avertis, les gens qui connaissent la vérité, vont quand même de temps en temps transgresser. Mais comment faire mieux? Comment améliorer cet réflexe, notre réflexe? Je parle de réflexe, je parle de notre principe de base, de notre propre façon de raisonner. Donc, l'affection de la chair, qu'est-ce que Paul voulait dire par rapport à ça? Si on fait une traduction littérale, mot par mot, de l'expression grecque, la chair signifie les muscles, la partie du corps sous la peau. Souvent, cette expression indique la chair des animaux aussi, la chair des animaux. L'affection de la chair, alors, implique des pensées qui sont dédiées à toute chose physique. toutes choses physiques, les choses qui ne sont pas spirituelles, les choses temporelles, on va dire. Donc, une expression du sens de l'expression, une traduction du sens de l'expression indique une préoccupation avec soi-même aussi. L'idée d'être préoccupé avec soi. Donc, si nous considérons ce passage, nous devons considérer que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, j'utilise de temps en temps des commentaires. Il y a un commentaire qui s'appelle le New Bible Commentary Revised, et c'est l'un de mes commentaires que j'utilise de temps en temps. Très intéressant, c'est un livre. Et ça donne une explication du verset 7, Romains 8, verset 7. La vie charnelle ou l'affection de la chair, il est dit ici, est hostile à Dieu, frustrant les idéaux divins pour l'humanité. Il est égocentrique et en guerre avec Dieu. Par cette nature, il n'a pas la force de se soumettre à la loi de Dieu. Fin de citation. Donc on voit encore deux pôles, deux différentes idées. Et l'un, c'est la chair, l'autre, c'est l'esprit. Est-ce que nous nous souvenons du livre de Genèse et l'arbre de la vie et la connaissance du bien et du mal aussi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était interdit, n'est-ce pas? L'homme avait un certain aveuglement à la différence entre le bien et le mal. On peut imaginer que dans cette situation idéale, on ne craindrait aucun mal parce qu'il n'y aurait pas de conséquences. Il n'y aurait pas de différence entre le bien et le mal. Donc, en choisissant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a fait un départ de la confiance totale en Dieu. Cette soumission n'y était plus. Par conséquent, l'Éternel a interdit l'accès à l'homme à l'arbre de la vie. Le premier couple humain et toutes les descendants de cette première famille sont sujets à l'affection de la chair. C'est le Père qui révèle, lors de son appel, la possibilité de l'affection de l'esprit. Mais autrement, l'homme ne connaît pas l'affection de l'esprit. Il songe à des idées philosophiques et spirituelles, mais il n'arrive pas, par sa propre force, à sonder l'esprit. Les choses de l'esprit sont cachées des yeux du monde. C'est par la révélation que l'homme a la capacité de comprendre les choses profondes, la profondeur. Alors, passons maintenant à l'affection de l'esprit. Quelle est la signification de l'affection de l'esprit? Nous avons déjà mentionné l'affection de la chair. Comment peut-on comprendre ce que c'est l'affection de l'esprit? Dieu est esprit? Dieu appelle ceux qu'il choisit de partout dans le monde? Quand on se fait baptiser, on reçoit son esprit par l'imposition des mains, n'est-ce pas? Sa loi est alors écrite sur le cœur, dans cette nouvelle alliance qui commence au moment de notre baptême. Dieu œuvre dans les hommes par son esprit et il prépare dans les membres de l'Église de Dieu son caractère divin. L'affection de l'esprit existe là où l'esprit de l'homme est en harmonie avec l'esprit de Dieu. Ça n'étouffe pas l'esprit de l'homme complètement, mais l'esprit de Dieu est en harmonie avec l'être humain, avec l'esprit humain. Donc l'homme va chercher dans cet état-là à s'aligner avec la volonté de Dieu. Si on pense, des fois on dit naturellement par défaut. Donc, si vous voulez, si on est dans l'affection de l'esprit, notre réflexe, notre façon de faire par défaut, c'est en soumission à la loi de Dieu, en soumission à l'inspiration de l'esprit de Dieu. Si on est en guerre avec cette force en nous, si on est en rébellion, ou si on est en désaccord, ou si on est en affection de la chair, on va peut-être avoir des impulses, si vous voulez, des idées, de l'attirement, et on va faire l'opposé. Vous savez que des fois, nous sommes tous passés par là. En faisant quelque chose qui est vraiment pas bon, on a dit à nous-mêmes, je sais que c'est pas bon. On peut tous admettre que ça nous est déjà arrivé dans la vie. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais à un moment donné, nous sommes tous passés par là. Des fois, c'était le père qui nous a dit de ne pas sauter dans la piscine ou dans l'eau, dans hauteur ou quelque chose comme ça. Et on va se dire à nous-mêmes, je sais que mon père m'a dit de ne pas faire ça et que c'est pas bon. Mais je vais le faire aussi parce que mon camarade de classe l'a fait aussi. Donc, c'est ça. On fait des choses en sachant qu'il y a des conséquences. Et encore une fois, quand on va tordre la cheville ou quelque chose comme ça, voilà. Les conséquences sont là, on ne peut pas les éviter à ce moment-là. Et ça peut être bien pire aussi. Mais voilà, nous sommes déjà passés par là. Et c'est la même chose, si vous voulez, ce refus de l'affection de l'esprit. C'est un peu l'opposé de l'affection de l'esprit. L'inspiration de Dieu en nous est là, par l'esprit en nous. Et on s'associe avec. On va dans le même sens. Ça nous mène dans une direction et on y va, contentement. Mais nous sommes capables aussi d'être attirés par l'inspiration de Dieu, de faire quelque chose et en dire, oui, je vais le faire quand même, je vais le faire. Et on peut le faire sans avoir vraiment notre esprit aligné avec cette idée, avec cette inspiration. Mais quand on a l'affection de l'esprit, c'est qu'on y va à 100%, on suit cette inspiration avec plaisir, avec bonne volonté, avec en étant bien heureux. Donc voilà, c'est intéressant qu'aujourd'hui, même en étant averti, l'homme peut continuer à avoir l'affection de la chair. Considérons 1 Corinthiens chapitre 2 maintenant. 1 Corinthiens 2. C'est un verset très encourageant. Et j'ai déjà un peu fait une référence à ce verset sans le citer, mais c'est mieux de le citer complètement parce que c'est un passage très, très riche de Paul, de nouveau. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, ceux qui sont soumis à sa loi, ceux qui sont en affection de l'esprit. Moi, j'ajoute quelques explications. Ce n'est pas écrit, là. Mais ceux qui l'aiment. Quand on pense à aimer Dieu, qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce que Jésus a fait? Si tu m'aimes, observe mes commandements, n'est-ce pas? OK? Donc voilà, c'est ça. Ça fait partie de notre amour pour Dieu. Et c'est cette affection de l'esprit qui est là. C'est cette idée que, comme un petit garçon veut être à côté de son père ou à côté de sa mère, c'est une affection. L'idée d'être attiré, de vouloir être tout près, de rester collé dessus. C'est une image d'amour. C'est une image d'amour, l'affection de l'esprit. C'est très profond. Mais encore une fois, je vais souligner au verset 10, comme Paul l'a fait, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Nous ne sommes pas arrivés à ces conclusions, à cette connaissance, à ce savoir par nous-mêmes. Si quelqu'un me dit que en étudiant la Bible lui-même, il a découvert ceci et cela et n'a pas besoin de Dieu, je vais dire, peut-être vous avez découvert quelque chose, mais sans l'inspiration de Dieu, on n'aura pas les yeux ouverts à la vérité. Et on n'aura pas l'affection de l'esprit. Les choses spirituelles, comme il a mentionné ici, Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Encore une fois, Dieu se révèle à nous par l'esprit. Et après aussi par l'esprit et la parole. La parole inspirée. La parole de Dieu. Donc, tout va ensemble pour la compréhension de Dieu et de sa volonté. Il ne suffit pas de comprendre Dieu avec des études en théologie et de ne pas avoir une foi vivante. C'est ce que Jacques souligne, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ma foi par mes œuvres. Ce n'est pas en orgueil qu'il fait ça. Mais Jacques a répondu à ceux qui disaient « Oh, pour moi, j'ai la foi. J'ai la foi. » Et ils parlaient de leur foi. Ils ont confessé, si vous voulez, leur foi, témoigné leur foi. Mais derrière, c'était plus comme un érudit qui étudie, mais qui n'a jamais mis en pratique ces choses. Donc ça continue, c'est ce passage au verset 11, 1 Corinthiens 2 et le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et on peut dire en lui, ok, ou par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, donc Dieu peut travailler avec nous par son esprit, la présence de son esprit, ou la relation plus intime, c'est de nous donner son esprit. Ceux qui sont inspirés à comprendre, à obéir à Dieu, peuvent être inspirés par l'esprit qui vient de Dieu, justement, comme c'est mentionné ici. L'esprit qui vient de Dieu, ça émane de Dieu, pour comprendre. Mais après, il y a un moment donné où on va arriver à un point où on va demander que Dieu nous donne son esprit en nous. Les deux choses sont différentes, mais les deux choses sont importantes aussi. Parce qu'il y a l'appel, après, il y a le repentir, il y a la croire, le repentir, il y a le baptême, l'imposition des mains. Après, on peut vraiment sentir l'affection de l'esprit, l'esprit en nous. Continuons avec le verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Vous voyez encore les deux contrastes, hein, de nouveau, dans un autre passage, dans un autre épître. C'est une façon de raisonner, pour nous faire comprendre ces choses. « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Intéressant. Verset 13, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » La pensée de Christ, l'inspiration de l'Esprit de Dieu, la loi de Dieu, toutes ces choses vont ensemble pour nous aider à développer ce caractère. Des fois, sommes-nous étonnés que Dieu soit d'accord pour nous donner quelque chose d'aussi puissant en nous, alors que nous sommes toujours susceptibles à faire des fautes? J'imagine que vous avez tous envie de revoir ou recevoir ce grand changement au retour de Jésus-Christ, de recevoir ce changement du corps en esprit. Mais profitons-nous déjà et pleinement de ce qui est déjà en nous, un changement de raisonnement, une affection de l'esprit. C'est notre rôle dès maintenant de vivre comme si on était déjà changé, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça l'idéal, si vous voulez? Si je pouvais vivre aujourd'hui, ou faire mon mieux, de vivre comme si j'étais déjà changé en esprit. D'enlever le péché de ma vie jusqu'au point où c'est comme j'avais déjà reçu ce changement. C'est un peu une façon de raisonner. C'est une façon de voir que nous pouvons agir, que nous ne sommes pas impuissants contre le péché aujourd'hui. Ça ne peut pas dominer sur nous si nous faisons l'effort de l'éliminer de notre vie. Dieu est beaucoup plus puissant que ça. Avec Dieu en nous, avec son esprit en nous, nous sommes capables de vaincre ces choses. On n'est pas soumis à la chair. On n'est pas, par défaut, soumis à la chair, soumis au raisonnement mortel, humain. Mais on peut vaincre. On peut vaincre avec le pouvoir, la puissance de Dieu en nous. On peut vaincre. On peut changer. On peut s'améliorer. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes choses, les mêmes péchés, les mêmes fautes, les mêmes choses pendant toutes ces années en attendant le changement. Non, on n'est pas emprisonné par le péché. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que nous ne sommes pas prisonniers, nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est une bonne nouvelle. Méditons ces choses, parce que ça nous encourage dans nos efforts, même dans un contexte de la pandémie, même dans un contexte de perdre des proches, même dans un contexte de conflit avec n'importe qui, de malentente avec n'importe qui, on sait qu'on n'est pas condamné à faire comme le monde, à répéter les mêmes fautes. Mais nous devons nous appuyer sur cette puissance afin de pouvoir profiter de sa puissance, afin de l'utiliser, afin de pouvoir développer le fruit de l'esprit en nous. C'est une belle image, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit en nous. Donc il faut d'abord distinguer entre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Et il faut aussi désirer l'affection de l'esprit. Et je vous le garantis, et vous l'avez déjà connu, si on est dans l'affection de l'esprit, on est joyeux, on est content. Il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a pas la souffrance dans l'affection de l'esprit, parce que il n'y a rien qui peut nous désencourager. Il n'y a rien qui peut nous battre, rien qui peut nous emprisonner de nouveau. Et c'est ça qui est libérateur, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui agit. Et on le ressent quand Dieu agit dans notre vie. Et on devrait le ressentir de plus en plus, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est la même chose à l'inverse. Je vais faire comme Paul. Quand on est avec l'affection de la chair, on le sent aussi. On le sent aussi. On sait que on fait le mal. On sait qu'on va dans le mauvais sens. On sait que les choix que nous faisons ne correspondent pas avec cette instruction de Dieu. C'est une rébellion, comme le commentaire l'a décrit. Donc, cherchons d'autant plus de nous aligner avec cette façon de raisonner, avec cette inspiration en nous, chaque jour de notre vie. Nous nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu de nous connecter, si vous voulez. C'est comme un appel Zoom. Chaque matin, on a envie de faire une connexion avec Dieu pour que ça dure toute la journée. pour qu'on soit en affection de l'esprit pendant toute cette journée-là. On ne veut pas perdre cette connexion et tomber en raisonnement humain. Il y a des efforts, des forces, des distractions, des choses qui vont essayer de nous tirer droite à gauche, de nous enlever notre connexion. Mais nous ne sommes pas obligés de le laisser tomber. Donc cherchons chaque jour à s'assurer que cette connexion soit bonne, que nous vivions dans l'affection de l'esprit. L'autre côté nous mène à la mort. Donc, nous avons souvent d'exemples de personnes, et c'est de plus en plus répandu dans les médias, dans les infos aujourd'hui, nous avons tellement d'informations sur les personnes qui font le mal, sur le mal qui existe dans le monde. Il y a très peu de bonnes nouvelles dans le monde aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons faire autre que l'affection de l'esprit. Ce n'est pas le monde qui va nous décourager dans notre poursuite de ce but, de cette fin, ce changement, cette finalité qui commence une éternité. Nous sommes capables de réussir avec le pouvoir, avec l'aide de Dieu en nous. Philippiens, Paul aussi, nous encourage ici par son propre expérience, par ses propres paroles. Philippiens, Paul écrit ici, c'est quand même beaucoup d'exhortations dans Philippiens. Et c'est très encourageant de considérer que Paul même, il nous encourage que nous sommes capables de réussir. C'est Paul le met dans un contexte de souffrance. Il nous explique ceci dans un contexte de persécution, peut-être, d'avoir des troubles, d'être abattu, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens 4, à partir du verset 10. Je sais que vous connaissez déjà le passage, vous connaissez déjà le verset que je vais citer. Donc on va quand même le présenter un peu plus doucement. Avec le verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, et à avoir faim, à être dans l'abondance, et à être dans la disette. » Verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'affection de l'esprit. Il est en ligne, qu'il soit en abondance, qu'il soit en la disette, il est aligné avec l'esprit, avec l'inspiration de Dieu, avec sa soumission à la loi de Dieu, les instructions de Dieu, la volonté de Dieu, et il est dans une attitude de puissance, de pouvoir faire. En faisant la volonté de Dieu, nous ne sommes pas censés de sentir de plus en plus faibles. C'est sa puissance en nous qui nous fortifie, qui nous donne, comme Paul a dit, la possibilité de tout faire. Ce n'est pas les conditions qui nous entourent qui déterminent que nous soyons dans l'esprit, l'affection de la chair ou l'affection de l'esprit. Ce n'est pas les conditions extérieures qui sont autour de nous qui vont déterminer notre choix, notre façon de vivre. Et c'est ça que Paul nous a expliqué. Il dit que ce n'est pas les conditions, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas la perte de mes proches. Ce n'est pas ça qui va déterminer mon choix entre les deux pôles, entre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Le choix est déjà fait. L'alliance est déjà commencée. L'engagement est déjà là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que une fois qu'on prend un engagement, que c'est fini. Ce n'est pas « once saved, always saved ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas « accepter Jésus dans votre cœur et hop, c'est fini. Jésus fait tout pour toi. C'est fini. » Dans une façon, il le fait pour nous par sa puissance en nous, mais nous sommes quand même impliqués. Notre façon de vivre doit changer. Le fruit doit être produit, doit se produire en nous. Voilà. Je voudrais juste vous encourager que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des esclaves du péché. Nous ne sommes pas condamnés à faire le mauvais choix de ceux qui nous entourent, de ceux que nous voyons dans ces exemples que je vous ai cités. Nous sommes libérés de cette voie. Nous sommes renouvelés par l'Esprit en nous. Et comme Paul, nous sommes forts. S'il a été fortifié, Paul, il est fort. Il n'est pas faible spirituellement. Il parle de plusieurs choses physiques. L'abondance, la disette, dans cet état ou là. Ailleurs, il va nous parler de ces naufrages, de ces moments difficiles alors qu'il voyageait pour prêcher l'Évangile. Mais ici, malgré ces circonstances, c'est Dieu qui lui donne la force. Il s'appuie sur cette force spirituelle en lui et il renforce. Il ne fait pas juste l'orteil dans l'eau quand il s'agit de l'affection de l'esprit. Il plonge là-dedans. Il nage dans le même courant de l'eau qui pousse. N'est-ce pas? C'est difficile à nager en contre-courant, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez essayé ça? Nager en contre-courant, c'est pas facile. Ça nous fatigue. Mais c'est malheureusement, c'est ce que l'homme fait par défaut. Nage contre-courant. C'est un esprit de rébellion, c'est un esprit d'ignorance. C'est « je vais faire ma volonté à moi, comme je veux ». C'est ça que l'homme fait. C'est pour ça qu'il a mangé le fruit défendu. Donc, quand nous laissons à Dieu nous guider par son esprit, il n'y a pas la fatigue qui s'installe. Il y a une abondance spirituelle. Il y a une force qui s'installe. Une force qui vient de lui et qui peut nous mener jusqu'à la vie éternelle.